commerçants d'Europe, Juliette Rangeval.
On se dit toujours que ça se passe ailleurs, mais cette fois c'est arrivé sur le pas de notre porte. J'ai grandi à la frontière pendant l'après-guerre, j'ai vu comment les Français et les Allemands se sont rapprochés petit à petit, donc ça me fait vraiment mal.
Bonjour à tous. L'émotion, vous l'avez entendu dans la voix de cet Allemand rencontré tout à l'heure par notre correspondant Maxime Nosch à Strasbourg. Ce matin, le Parlement européen a respecté une minute de silence pour les victimes des attaques. Hier, lorsque les coups de feu ont éclaté sur le marché de Noël, la ville était remplie d'élus européens, notamment venus assister à la séance plénière du Parlement. Et l'émotion est immense. On est ici au cœur de l'Europe, touchée à plusieurs reprises par le terrorisme. Les députés européens ont déjà beaucoup légiféré ces dernières années sur les questions de terrorisme, de sécurité. Mais pour Andreas Schwab, élu allemand, juste de l'autre côté de la frontière, il faut aussi plus de coopération entre les États. Il est député européen et membre du Parti populaire européen, le PPE.
Je suis convaincu que le fait que nous faisons des lois au niveau européen est utile, mais c'est pas suffisant. Donc il faut surtout, et je suis là en voiture avec un collègue polonais, et on vient d'en discuter, il faudrait que les États membres travaillent encore plus fortement ensemble pour échanger des informations des services secrets, car en fait les frontières, c'est aujourd'hui une chose qui est importante, mais la plus importante, c'est que les forces d'ordre sont au courant de ce qui se passe. Et on a malheureusement dû voir lors des attentats de Bruxelles que c'était les Américains qui ont informé les Français des informations que les Belges avaient trouvées. C'était pas les Belges qui ont informé les Français. Et donc on voit que même les pays riverains n'arrivent pas à vraiment s'informer facilement et concrètement et rapidement. Et donc ça, c'est vraiment un problème pour l'Union européenne.
Est-ce que justement dans le cas de cette fusillade de Strasbourg, on sait que le suspect est fiché S en France, qu'il avait été détenu en Allemagne, qu'il avait été détenu en France. Est-ce que là, vous pensez que la coopération entre France et Allemagne peut encore être améliorée?
Absolument. Il a été jugé dans un tribunal, dans ma circonscription. Il y a eu un jugement en France. Donc, il faudrait que nos systèmes de sécurité, mais non seulement les systèmes de sécurité, aussi nos systèmes de justice, et les pénitentiaires devraient coopérer beaucoup plus fortement, car sinon, on n'a pas vraiment les compétences et les capacités à répondre effectivement à ce défi, qui est un défi européen, clairement.
Plus de coopération face à ce défi européen, c'est aussi ce que réclame Godelieve Kistud-Hoffol. Elle est élue du PPE, le Parti populaire européen, mais elle réclame plus de la part des citoyens. Elle est en ligne avec Frédéric Lebel.
Je crois que c'est aussi une question de mentalité de nous tous, citoyens européens. C'est que nous devons être courageux. Notre président a dit ce matin, la force, la démocratie et notre courage est la meilleure réponse. Et là, je crois qu'il a tout à fait raison. Et dans les régions frontalières, il faut une coopération très, très étroite entre les services de sécurité des différents pays. Parce qu'évidemment, bon, ça je l'ai vu hier soir, quand je rentrais de Kiel à la Vansenau, eh bien, il y avait des contrôles au pont du Rhin, mais ça évidemment, c'est nécessaire d'avoir un échange d'informations, un échange de personnel pendant toute l'année, quoi.
Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui en Europe? Quel type d'échanges ont lieu?
Europol, la coopération policière, fonctionne de mieux en mieux d'une année à l'autre. Je crois qu'il faut encore intensiver une politique commune, pas seulement dans l'exécution, mais aussi dans la conception de la politique de sécurité. Mais ça fonctionne très bien aussi déjà. Mais surtout, il faut échanger. C'est même pas une question de centraliser, c'est une question d'échange d'informations et une question de prudence avant qu'on ait le cas extrême.
Plus d'échanges réclamés par cette élue allemande. Il faut savoir que côté français, de sources judiciaires, on déplore la très très mauvaise collaboration entre les services des deux pays, français et allemand. En revanche, toujours de sources judiciaires françaises, on indique que la coopération avec les Espagnols ou les Belges, on en parlait tout à l'heure, est là exceptionnelle.
I will contest that vote with everything I've got.
Theresa May, inébranlable ce matin devant le 10 Downing Street à Londres. On en parle avec notre correspondante Marie Billon. Marie, face à la fronde des députés conservateurs qui provoque un vote de défiance contre elle au Parlement, elle affirme qu'elle se battra de toutes ses forces.
Oui, elle s'est restée ferme quand il s'agit de défendre sa position et de montrer qu'elle est une femme de poigne. En somme, les attaques personnelles ne l'atteignent pas. Mais évidemment, en début de semaine, on a vu que parfois, elle promettait de rester inébranlable avant de botter en touche. Quand elle a annulé à la dernière minute le vote qui devait avoir lieu mardi à la Chambre des communes sur l'accord qu'elle avait négocié avec Bruxelles, elle a été accusée de couardise. Et évidemment, les comparaisons avec Margaret Thatcher n'ont pas tardé. C'est vrai qu'elle est seulement la deuxième femme première ministre. La Dame de Fer est donc la seule comparaison. Mais surtout, toutes deux ont engagé un bras de fer avec l'Europe. Mais si Margaret Thatcher a obtenu ce qu'elle voulait, Theresa May aura plus de difficultés. C'est là que la comparaison commence à faire mal. Parce que Thatcher, c'est la femme qui avait dit lors d'un discours célèbre devant le Parti conservateur en 1980 « La dame ne fait pas volte-face ». Or, la presse britannique s'est empressée de dire que la dame, Theresa May, elle fait volte-face quand elle a annoncé le report du vote. Mais ce genre d'attaque est encore relativement douce, finalement. Parfois, les mots dépassent les bornes quand même. Et ça, c'était de la vie générale. Par exemple, quand un député conservateur avait dit qu'elle devrait apporter sa propre corde pour que ses députés la lynchent, tellement elle serait devenue impopulaire, des propos qui ont été dénoncés. D'autres déclarations sont plus déroutantes, on va dire. La première ministre n'a pas peur de les assumer. Par contre, la députée travailliste Rupa Huck a accusé Theresa May d'éjaculation parlementaire précoce, quand lundi elle a finalement annulé donc le vote sur l'accord du Brexit. Ce à quoi la principale intéressée a répondu crûment: si madame la députée prenait la peine de regardez de plus près, elle verrait que je ne suis pas capable d'éjaculation parlementaire précoce.
Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de violence dans les propos, on l'entend, Marie. Mais malgré tout, les Britanniques ne perdent pas leur sens de l'humour.
Oui, une vidéo pour la campagne pour un second référendum a fait le tour de la toile et des réseaux sociaux cette semaine. Andy Serkis, l'acteur qui joue Gollum dans la saga du Seigneur des Anneaux, a parodié la première ministre. Maquillage, perruque et surtout gros collier autour du cou. La fausse Theresa May cajole et caresse son précieux accord.
Prime Minister, you wanted a copy of your withdrawal agreement.
Our agreement. This is it. Our deal. Yes. Yes.
Que Theresa May reste à son poste ou que les Britanniques aient un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on sait que Londres veut rediscuter avec l'Union européenne. Mais est-ce qu'on sait ce qu'ils veulent obtenir, Marie ?
C'est la grande question et la réponse dépend de qui aura les clés de Downing Street après le vote. Ce qu'on sait, c'est que Theresa May ou son ou sa successeur veulent rediscuter du backstop, une sorte de police d'assurance qui doit empêcher le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Si Londres et Bruxelles ne s'entendent pas sur un accord commercial post-Brexit et faute d'autres solutions, ils forceraient les Britanniques à rester dans l'union douanière avec les 27. Les plus farouches des pro-Brexit veulent que ce backstop soit purement et simplement éliminé. L'UE a déjà dit impossible, impur. Pro-Brexit, par contre, dira à Bruxelles, eh bien, si c'est comme ça, ce sera no deal, pas d'accord. Juste des négociations à la marge pour éviter Armageddon le 29 mars, le jour de la sortie. Mais May, elle, si elle reste en place, ce qui n'est pas impossible, elle va essayer de trouver un entre-deux, obtenir des garanties, c'est ce qu'elle a dit, sur cette police d'assurance. Elle pourrait réclamer, par exemple, un codicille, le genre d'addendum qu'on trouve dans un testament, alors on s'attend bien sûr à des blagues morbides à foison, ou alors un engagement à faire de son mieux qui pousserait l'UE à négocier pour un accord de libre-échange en toute bonne foi, ou encore une assurance écrite que le backstop a pour but d'être temporaire. Mais le problème, c'est que ça ne satisfera pas la plupart des rebelles, car ce ne serait que des promesses à la marge et sans contrainte légale. Theresa May espère quand même que ce dernier effort sera récompensé, que certains de ses députés pourront se dire « Eh bien, on a mis la pression maximum, on a fait de notre mieux pour nos électeurs, nous pouvons désormais soutenir cet accord, même s'il n'est pas parfait. »
Merci Marie, à bientôt.
Schließe ich mich nicht an?
Oh Mann, na dann hör mal zu. Ja, wer stolpert in die Krise rein, steht in Europa ganz allein. Das ist die Angela.
Hey Angela.
Das Integrieren hast du verpennt und 10% der Wähler rennt zur AfD, Angela.
Nicht okay, Angela.
Auf dich haut jeder Bauer drauf, da stößt dir ziemlich sauer auf, oh yeah, Angela.
Et pendant que la Britannique Theresa May se bat pour sa survie politique et pour son accord trouvé avec l'Union européenne, ce matin, devant les députés du Bundestag, une femme, encore une, s'est montrée elle aussi inflexible. C'est Angela Merkel, la chancelière allemande. Nous n'avons aucune intention de changer l'accord de retrait du Brexit. C'est la position commune des États membres. Angela Merkel qui s'exprimait à la veille d'un nouveau Conseil européen dominé par cette question de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Elle a ajouté qu'elle espérait toujours un retrait ordonné des Britanniques, mais nous nous préparons aussi aux conséquences du scénario d'un Brexit sans accord, a-t-elle poursuivi. Angela Merkel, 13 ans au pouvoir, elle vient d'annoncer son retrait de la vie politique, mais elle n'a pas fait assez d'avancées sur les questions des droits des femmes. Ce serait cependant oublier le symbole qu'elle incarne. Reportage de Julien Méchaussi.
Êtes-vous féministe, Madame Merkel? Avril, l'année dernière, à Berlin, se tient le W20, conférence qui réunit quelques-unes des femmes les plus puissantes au monde. Lors d'une discussion à laquelle participe Angela Merkel, cette question simple mais directe laisse la chancelière bouche bée. Puis elle se reprend, cite les mérites d'Alice Schwarzer, icône du féminisme allemand, avant de finalement confier du bout des lèvres.
Ich habe keine Angst, wenn Sie finden, dass ich eine bin, stimmen Sie ab, okay?
Bon, ok, je me sens également féministe. En près de 30 ans de carrière politique, Angela Merkel n'a jamais prétendu l'être, ce qui lui a souvent été reproché, elle qui a été la première femme à devenir chancelière. Le célèbre photographe allemand Andreas Herzau a suivi Angela Merkel de 2009 à 2017. Un travail au long cours qui a donné naissance au livre photographique AM et dans lequel Andreas Herzau se penche entre autres sur la représentation du pouvoir au féminin de la chancelière.
Elle a une approche et une compréhension très nouvelle de sa fonction, de son travail. Angela Merkel ne cherche pas à personnifier le pouvoir. Ce qui l'intéresse, c'est son travail. Toute cette mise en scène médiatique ne compte pas à ses yeux. Je dirais même qu'elle se tient à distance de ce comportement machiste que nous voyons chaque jour chez les hommes politiques. Elle est tout simplement modeste.
Et c'est justement le grief que lui font certaines féministes, ne jamais avoir mis en avant le fait qu'elle soit une femme. La chancelière est aussi montrée du doigt pour ne pas avoir entrepris assez en faveur des droits des femmes, par exemple pour l'égalité salariale. Éditorialiste au quotidien conservateur Die Welt, Hannah Luhmann préfère mettre en avant les luttes de pouvoir qu'a menées Merkel avec des hommes, toutes remportées jusqu'ici. La dernière en date, face à son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, sur la question des réfugiés.
Angela Merkel était vraiment la première femme qui a dû faire tout ça. Elle a trouvé des réponses qui peut-être ne sont pas acceptables pour tout le monde, mais elle a quand même trouvé des réponses. Et je pense qu'elle a commencé à s'ouvrir un peu après MeToo et aussi après l'élection de Trump. Donc elle a dû réagir aux questions féministes. Et même si elle se définit pas comme féministe, elle a changé, comme elle a toujours changé, parce qu'elle n'a jamais été idéologique. Et je pense que c'est un peu la même chose avec elle et le féminisme.
Fidèle à son style, Angela Merkel préférerait donc les actes aux apparences, même si cela est plus difficile à percevoir dans l'opinion. Comme vendredi dernier, lorsque Annegret Kramp-Karrenbauer a été élue présidente de la CDU pour lui succéder aux dépens de deux hommes.
En soi-même, ça aussi, c'est un acte féministe d'une façon, parce que ça crée une nouvelle normalité qui n'a jamais existé comme ça. Et je pense que c'est les gens, peut-être les hommes, mais les gens en général, ils ont peine à accepter ça, en fait, que ça peut arriver, que le pouvoir passe d'une femme à l'autre et que ça, c'est la nouvelle normalité. Et je pense, comme ça, aussi son dernier discours qu'elle a tenu comme chef de parti, c'est une façon d'exprimer les sentiments dans le discours politique qui, elle aussi est nouveau et féministe.
Après 18 ans passés à la tête du parti conservateur, Merkel a passé la main et n'a pas hésité à se montrer émue alors qu'elle s'est toujours évertuée à masquer ses émotions, de peur que lui soit reproché un comportement qui serait typiquement féminin. Andreas Herzau a également été confronté à cette question lors de son travail avec la chancelière, comme lorsqu'après une longue journée de travail, Merkel s'endort dans le train, moment rare d'intimité qu'il ne prendra finalement pas en photo.
Ce qui est décisif, c'est la manière dont une photo est interprétée. Et une photo de Madame Merkel qui s'endort après une journée de travail de 16 heures sera interprétée comme un signe de faiblesse, parce que c'est une femme. Cela ne serait pas le cas avec un homme. Regardez Annegret Kramp-Karrenbauer qui vient de lui succéder à la tête de la CDU. Lors d'une émission politique, des journalistes, des hommes, lui ont demandé comment elle pouvait espérer devenir chancelière en s'occupant de ses 3 enfants. Jamais cette question ne serait posée à un homme.
Et la force d'Angela Merkel, selon Andreas Herzau, a été d'ouvrir la voie aux femmes.
Elle est un exemple. Elle a démontré que c'était possible. En étant compétente, avec un style très efficace, sans faire de son sexe un sujet. Et cela constitue un appel pour d'autres femmes à s'engager. Elle a donné du courage aux femmes. J'espère aussi que l'ère Merkel aura permis aux hommes politiques de changer leur vision des femmes au pouvoir.
Si Angela Merkel ne se revendique pas féministe, sa longévité au pouvoir semble pourtant bel et bien avoir bousculé les mentalités. En 2018, presque tous les grands partis politiques allemands ont une femme à leur tête.
Et on retrouve Ève Minot pour parler femme et pouvoir. Bonjour Ève.
Bonjour Juliette.
Femme et pouvoir, ce sont deux mots dont la proximité n'est pas encore complètement rentrée dans les mœurs en Europe. De fait, en matière de représentation politique des femmes sur le continent, il y a comme partout des bons et des mauvais élèves, même s'il est devenu de bon ton d'afficher des objectifs de parité. À l'heure où la fin de l'ère Merkel se profile à l'horizon, nous faisons avec vous aujourd'hui un petit tour d'Europe des femmes au pouvoir dans leur pays.
Oui, et d'abord, sachez que si l'on ne compte pas les reines européennes en Angleterre et au Danemark, qui n'ont pas suivi de parcours démocratique et ne doivent rien aux électeurs, il n'existe aujourd'hui en Europe que 4 femmes à la tête d'un État. La plus ancienne, c'est Dalia Grybauskaitė, présidente de la Lituanie depuis bientôt 10 ans. Marie-Louise Colaero-Preca, présidente de Malte depuis 2014, rapidement suivie par Kolinda Grabar-Kitarović en Croatie. Puis Kerti Kajulai, devenue présidente de l'Estonie il y a 2 ans. 4 femmes donc, pour une 20aine d'hommes.
N'oublions pas, Eve, également les chefs de gouvernement.
Oui, car dans certains pays européens, ce sont elles qui mènent la politique de la nation. La plus emblématique, c'est bien sûr Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne depuis 13 ans, depuis 2005. Mais d'autres femmes sont venues resserrer les rangs ces derniers temps, puisque Theresa May est devenue première ministre du Royaume-Uni en 2016, tandis que 2 autres femmes, Katrín Jóvadsdóttir et Anna Bradić, ont pris la tête des gouvernements islandais et serbes en 2017. Dernière arrivée dans ce cercle très convoité des femmes chefs de gouvernement, Viorica Dăncilă, en janvier dernier, en Roumanie.
On peut dire, Eve, que dans certains pays, les femmes qui gouvernent, c'est quasiment une tradition.
Oui, c'est le cas notamment en Finlande ou en Pologne, où des femmes ont tenu le rôle de chef d'État et de gouvernement à 3 reprises ces 30 dernières années, ce qui fait vraiment figure d'exception dans le paysage européen.
Une minorité d'États n'a même jamais eu de femmes à l'un ou l'autre de ces postes prestigieux.
Oui, pas une seule fois, et quelle que soit la durée du mandat d'ailleurs. On se souvient par exemple du cas français avec Edith Cresson, qui était restée 1 an première ministre. Donc c'est le cas de 11 pays sur 28 tout de même, l'Autriche, la Belgique, Chypre, mais aussi l'Espagne, la Grèce, l'Italie ou encore le Luxembourg, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie ou la Suède. Comme quoi il serait bien difficile de dégager une zone géographique en Europe plus favorable à élire des femmes à la tête d'un pays, puisque cette situation se vérifie autant au nord qu'au sud de l'Europe, à l'est ou à l'ouest.
Et Eve, du côté des parlements, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors en matière de représentativité des femmes au sein du pouvoir législatif cette fois et d'aboutissement de la parité dans les chambres des parlements européens, les Suédois remportent clairement la mise. Selon le rapport de l'Union interparlementaire sur le sujet l'année dernière, la Suède fait figure de meilleur élève avec 43,3% de femmes au Parlement, suivie de près par la Finlande. L'Espagne et la France d'après les élections en 2017, je précise, arrivent juste derrière avec respectivement 39,1% et 39% de femmes au Parlement. La Hongrie se retrouve en queue de peloton avec seulement 10% de femmes, juste derrière la Lettonie, 16%, Malte, 11,9%, comme quoi il y a encore du travail.
En effet, merci Eve, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Accent d'Europe avec à la réalisation Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, vous nous réécoutez sur RFI.fr et on se retrouve ici demain à la même heure.